culture.
Eh bien, chers amis de la culture Gomez et Os, nous voici de nouveau réunis pour une magnifique émission de En Culture, numéro X. Alors, je suis, comme d'habitude, accompagné de Lou, qui va vous dire bonjour, si elle veut bien.
Bonjour, oui, je veux bien vous dire bonjour.
C'est magnifique, vous en avez de la chance, chers auditeurs et chères auditrices. Isabelle est là-bas aussi?
Oui, je suis là-bas. Bonjour.
Ah voilà, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne nuit. Hein.
Bonjour à tous et à toutes.
Voilà, et Coralie est là, juste bien. En face de moi.
Mais oui, je suis en face de toi, bien le bonjour.
Et Nathan qui est à la technique, mais il a pris l'option de ne rien dire et de simplement maîtriser cette quantité invraisemblable de boutons qui se trouvent face à lui. Alors la culture, ça commence dès le plus jeune âge, hein, je pense.
Il faut... Exactement. Voilà, moi j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui un livre qui s'appelle « Marilou et Crocolou, les petits écolos ». Parce qu'il n'y a pas que la culture qui se prend dès le début, il y a aussi les bonnes habitudes écologiques. Alors c'est un petit album qui fait 15 cm, hein, un petit album carré, il est tout petit, tout mignon, tout rigolo. Et Marilou et Crocolou, ce sont des espèces d'animaux hybrides, à moitié loup, à moitié crocodile. Hein. Voilà, on le voit sur la couverture, la petite sœur a une queue de loup, le grand frère a une queue de crocodile, mais ils ont tous les deux des têtes de loup, donc voilà. C'est un animal un peu hybride, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce sur quoi on peut s'attarder, ce sont les bons conseils qui sont donnés déjà pour les tout-petits. Alors, à l'occasion d'une journée avec les grands-parents, Marilou et Crocolou vont aller faire un petit tour à la plage. Et donc, comme premier conseil, on va remplir notre gourde d'eau pour éviter de jeter des bouteilles en plastique. Parce que le plastique pollue beaucoup. Au lieu de prendre la voiture, on va faire un tour en vélo parce que la plage n'est pas loin, il fait beau et donc on en profite. C'est toujours plus sympathique et arriver sur la plage, c'est le drame. Les personnes précédentes ont jeté des déchets partout pour le grand plaisir des mouettes qui viennent picorer les dernières graines qu'il y a dedans. Voilà, la plage est un petit peu sale et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un gentil petit crocolou ou une gentille petite Marilou qui vient d'apprendre ce que c'était que l'écologie? Eh ben, on ramasse les déchets et on les met dans un petit sac à dos jetable qui va aller à la poubelle, tout simplement. Tout en faisant le tri des déchets qui est ici super bien expliqué, voilà. Et en fait, il y a plein de petites astuces comme ça. Donc, quand la grand-mère va à l'épicerie, elle prend son petit cabas. Plutôt que de prendre un sac plastique pour ranger ses légumes. Et moi, c'est une thématique qui, personnellement, me parle énormément, parce que je trouve que si on détruit notre planète, on va tout simplement tous plus être là, puisque nous n'avons qu'une seule planète Terre. Je pense, Jean-Marie, que tu seras d'accord avec moi, puisque c'est une thématique qui te touche particulièrement aussi.
Oui, oui, tout à fait. Je vais parler de ça aussi, d'ailleurs.
Et est-ce que c'est pas trop moralisateur ?
Non. Honnêtement, c'est vraiment des petits conseils. Voilà, par exemple, au tout début, papy dit allez tous en voiture. Et c'est vraiment plus une question si nous y allions à vélo. Voilà, donc c'est pas moralisateur, c'est plus des interrogations des petits vers les grands pour dire c'est plus sympa. Alors, il parle aussi du coup de commerce local avec la petite épicerie. Parce que du coup, un légume qui fait moins de voyages, forcément, il y a moins de CO2 puisqu'il n'a pas été transporté par camion. Et nous vivons dans une région où il y a quand même beaucoup de maraîchers et beaucoup de solutions pour avoir des produits locaux, bio pour ceux qui veulent, et naturels, et sans plastique, etc. Et ça va me permettre de pousser un petit coup de gueule, parce que je n'en fais pas souvent, hein, j'essaye relativement d'être sympathique, mais j'ai un petit coup de gueule à pousser contre une grande enseigne que je ne citerai pas parce que je suis quand même quelqu'un de sympa. Il faut arrêter d'emballer les brocolis et les concombres dans du film plastique. Voilà, ce n'est pas parce que le concombre est bio... D'accord. Qu'il faut l'emballer dans du plastique. Une branche de brocoli emballée dans du plastique, ça ne sert à rien.
Mm-hmm. Oui, voilà. C'est comme des pommes pré-pelées, pré-découpées, qui est carrément dans un godet en plastique.
Et emballées, mais c'est tout à fait inutile. Enfin, j'ai envie de dire, je pense que on est à peu près tous capables de sortir un petit couteau. Et si on ne sait pas peler une pomme au couteau, on a inventé l'économe. Pour faire ça.
Et puis on peut, si elle est bio, manger la plure aussi.
On peut manger la plure, il suffit de bien la laver aussi, parfois, tout simplement. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de gueule perso, je trouve ça complètement stupide du coup d'avoir emballé comme ça des produits tout seul, enfin voilà, une branche de brocoli qui est emballée dans son petit sachet plastique à moitié sous vide.
Et le pauvre brocoli ne s'est même pas respiré dans son plastique.
Et du coup il moisit deux fois plus vite.
Ah oui, absolument.
Oui.
Et donc on pense que ça conserve alors qu'en fait il moisit deux fois plus vite.
Oh, ce terrible cri du brocoli qui étouffe dans son sachet plastique.
Jean-Marie. Et pour revenir aux petits albums là, de Marie-Lou et Crocolou, donc c'est les petits écolos, mais est-ce que c'est un titre unique ou c'est une collection ils ont d'autres aventures?
Alors, il y a d'autres aventures de Crocolou au départ, et Marie-Lou et Crocolou, c'est une deuxième série qui a été dérivée. Et il y a, je pense qu'à la fin, il y a un petit récapitulatif. Voilà, donc il y a le spectacle des doudous, l'anniversaire surprise, vacances à la montagne, le secret, la dispute, vive les bêtises, le déménagement. Donc c'est plein de thématiques qui peuvent être abordées de manière assez sympa avec les enfants, en fait.
C'est ça, mais donc ils ne sont pas petits écolos à chaque album.
Non.
C'est vraiment lié à celui-ci.
Voilà, c'est dans cet album-ci où... Ils en profitent en fait pour en parler, tout comme dans le déménagement, ils profitent pour expliquer aux enfants que c'est normal d'être triste de quitter une maison qu'on a connue, mais que c'est une aventure de découvrir une toute nouvelle maison. Voilà, donc c'est voilà, l'idée c'est pas d'être moralisateur du tout, c'est plus de donner des petites astuces comme ça pour que les petits loups du coup puissent profiter en fait de la planète qui est la nôtre et qui est magnifique. Et elle est tellement magnifique que du coup, j'ai choisi une chanson qui lui rend hommage. Le groupe, c'est Trio, et le titre de la chanson, c'est l'hymne de nos campagnes.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux, que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira à la croissance de tes marmots. Servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Bien, ben pour vous parler de ce dont je vais vous parler, je ne vais pas vous en parler tout de suite, c'est un peu compliqué, mais bon, oui, c'est pas grave. Marie. J'ai demandé à Nathan de mettre une petite musique qui va servir d'indice. Alors, on va voir si vous allez trouver. Hein. Oui, voilà. Non, je ne vais pas parler des Caraïbes.
Alors, c'est quelqu'un qui a une idée. Ni des pirates.
Non plus. Alors, pour vous guider, il faut penser au personnage principal.
Jack Sparrow.
Oui, voilà. On progresse.
Sparrow, c'est un oiseau.
Un oiseau. Quel oiseau ?
Un moineau.
C'est un moineau. Voilà. Et qu'est-ce qui arrive aux moineaux dans les villes ?
Ils disparaissent.
Voilà, exactement. Vous avez trouvé.
Ah, mais Jean-Marie, c'est pas...
Félicitations.
C'est dur.
C'est juste pour vous introduire... comment on appelle ça ? Une revue périodique qui s'appelle La Recherche. Alors, exceptionnellement, vous ne trouverez pas ça à la bibliothèque de Florentville ni à celle de Géroville, mais par contre, il existe quelque chose, un moyen mystérieux, mais qu'Isabelle vous expliquera plus tard, pour accéder à cette revue et recevoir chez vous l'article qui vous intéresse. Alors, l'exemplaire du mois d'octobre à décembre, en fait, hein. Donc c'est vraiment tout à fait actuel, vous le trouvez encore en librairie si vraiment vous voulez l'acheter, c'est biodiversité et climat. Donc ce sont deux choses qui vont assez bien ensemble. On a découvert récemment qu'il existait ce qu'on appelle des points de bascule. À un moment donné, les choses évoluent en douceur et puis tout à coup, tout s'effondre. Mmh. Donc la biodiversité, si on retire des espèces comme ça, les unes après les autres, comme les moineaux, comme tout un tas d'autres espèces d'insectes qui ont disparu, on a l'impression qu'on peut continuer comme ça à retirer des espèces. Sauf qu'à un moment donné, on passe à un seuil et pouf, tout s'effondre. Avec le climat, c'est un petit peu la même chose. Et donc, plus le climat change, plus on a intérêt à avoir une biodiversité importante. Une biodiversité bien développée va permettre aux espèces qui la constituent de s'adapter si toutefois le climat change. Bon, évidemment, là, c'est l'inverse qui se passe, hélas. Alors, il y a un excellent article d'un certain Bruno David, hein, qui est, il préside le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Ça fait 6 ans qu'il fait ça. Alors, la biodiversité est résiliente. Donc ça veut dire que s'il y a des soucis de biodiversité, ben, elle va arriver à se redresser, à redémarrer, si on veut. Ce n'est pas le cas du climat. Donc c'est vraiment très intéressant à lire. Il y a aussi un article sur l'avenir des insectes, avec une très jolie photo, enfin vous ne la verrez pas à la radio, ce sont des demoiselles, vous voyez, ces espèces de petites libellules qui sont très abondantes sur la semoire. Oui. Alors pris en gros plan, ça a vraiment une tête assez comique en fait. Hein.
Effectivement, on dirait qu'elles ont des grosses lunettes. Moi j'ai l'impression de voir trois mémés discuter sur un banc.
Oui, oui, et... En
plus
réalité,
au bord de chez moi, hein, cette année, tu ne trouves pas ?
Oui, c'est tout à fait ça. Et voilà, donc les insectes, etc. Donc c'est vraiment intéressant si vous vous intéressez à ces questions-là. Accessoirement ou pas, hein, là je vais entamer un débat extrêmement risqué, c'est-à-dire que je vais prononcer le mot vaccin. Vous savez qu'il y a une bipolarisation de la société. Oui. Je discutais récemment avec quelqu'un qui me disait que discuter des vaccins était devenu dans la famille un tabou absolu. Que vraiment, ils étaient au bord de la guerre, les pro-vaccins, les anti-vaccins, etc. Et donc, ce n'est pas plus mal d'avoir un article scientifique sur la question « La longue histoire des vaccins à ARN messager ». Donc, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, quelque chose de tout à fait nouveau, puisque ça a déjà été utilisé. Déjà dans les années 90, il y a des essais qui ont été faits. Donc vous avez une ligne de temps. En 1961, c'est des Français, Monod et Jacob, ainsi que François Gros, qui découvrent l'ARN messager. Et puis enfin, on vous explique tout ça, le principe de fabrication des vaccins ARN et les avantages qu'ils représentent. Donc évidemment, on est dans une revue scientifique, donc il ne faut pas aller avoir une posture anti-vaccin. Hein. Mais au moins, ça permet, si on se pose des questions sur les vaccins, c'est un article vraiment à lire pour avoir une information scientifique sur la question. Donc voilà, c'est la recherche, biodiversité et climat. Alors tant que j'y suis, il y a aussi dans le Courrier international, hein, vous voyez, c'est une espèce de revue de presse, en fait, de la presse internationale, éventuellement traduite en français quand c'est nécessaire. Et donc c'est un numéro spécial, Atlas du réchauffement climatique. Des pôles à l'équateur, la planète brûle. Donc vous voyez le genre, ça on le sait bien. Et donc il y a les signes de la crise, comment s'adapter et agir, une planète sous pression. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie de vous documenter et d'un peu mieux comprendre ce qui se passe, eh bien c'est pas mal du tout à lire. C'est extrêmement déprimant parce qu'évidemment tout va mal et tout va de plus en plus mal. On se rapproche dans un mur contre lequel on va se fracasser et plus on s'approche du mur et plus on va vite. Voilà plus ou moins la situation. Donc, vous savez, le GIEC, hein, on se moquait un peu du GIEC, moi y compris d'ailleurs, je l'avoue. Mais on est là avec un degré d'augmentation qui est arrivé 10 ans plus vite que prévu. Et alors, je suppose que vous avez remarqué dans les informations qu'il y a en permanence quelque part soit des inondations, soit des sécheresses, soit des feux de forêt, soit des destructions de récoltes, etc. etc. Ça n'arrête pas. Il y a un article sur la déforestation avec l'Indonésie qui est presque qui déforeste aussi bien que aussi bien cette façon de parler que le Brésil, les fameux feux de forêt qu'il y a en Californie là, des wildfires, donc des incendies qu'on n'arrive plus à maîtriser. Bon, tout ça n'est pas extrêmement agréable à lire, mais je pense que si on veut se motiver un peu à réagir, c'est une lecture assez salutaire. Alors pour rebondir sur ce que Coralie disait tout à l'heure, un repas frais, local, eh ben, produit 10 fois moins de gaz à effet de serre par rapport à un repas surgelé. Si on prend l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille. Alors, vous savez que la viande du Brésil ou d'Argentine est très populaire par chez nous. Un kilo de viande du Brésil qui est mangée en Europe, ça correspond à faire 1600 km en voiture. Tandis que si la viande est locale, ça ne correspond qu'à 111 km. Maintenant, le sujet est très débattu. Hein. La quantité d'eau nécessaire pour faire un kilo de viande est estimée entre 15 000 litres pour un kilo de viande à 15 litres. Donc vous voyez, un facteur 1000. Oui. Selon que vous vous renseignez dans les Amis de la Terre ou sur le site de l'INRA, qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique, les chantres de l'agriculture productiviste en France. Donc forcément, ils peuvent avoir que cette idée-là.
Mais oui.
Voilà, j'en arrête là avec mes propos profondément déprimants.
Et oui, mais en même temps, c'est intéressant. Et alors, pour rebondir à ce que tu disais en préambule et ce que tu viens de dire, à savoir aller lire à plusieurs sources, donc Périoclic, c'est effectivement un service qui est proposé par les bibliothèques publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc les bibliothèques publiques qui fêtent leurs 100 ans ces semaines-ci. Enfin, c'était le 17 octobre précisément. Et c'est un service qui, en fait, permet de retrouver des articles dans plus de 2000 revues. Donc il y a plus de 2000 revues qui sont encodées. Et parmi ces 2000 revues, il y en a près de 400 qui sont dépouillées, c'est-à-dire qu'on a recensé les articles qui sont contenus dans ces revues. Donc si vous cherchez un article précis d'une revue précise, et ça peut aller de la politique à la science, à la géographie, à la culture, à l'histoire de l'art, il vous suffit d'aller sur www.perioclic, donc P-E-R-I-O-C-L-I-C, perioclic.be, et là vous avez un moteur de recherche, tout ce qui est plus classique, où vous pouvez chercher simplement par thème ou par titre de revue ou par titre, si vous avez le titre précis de l'article. Vous localisez à ce moment-là l'article. Donc, par exemple, il est dans une bibliothèque à Charleroi. Vous envoyez un mail et la bibliothécaire ou le bibliothécaire de Charleroi vous scanne et vous envoie par mail l'article en question. Et si vous n'avez rien compris à mes explications, évidemment, les bibliothécaires de votre bibliothèque favorite sont là pour vous aider.
Et ça coûte combien, ça ?
Eh bien, monsieur, c'est gratuit.
Ah ben voilà, je suis content d'avoir posé la question, monsieur. C'est pas cher.
C'est pas cher, monsieur.
Ah ben c'est très intéressant.
Mais oui. Oui, parce que ça permet... par contre, je n'ai pas tous les détails, donc je ne sais pas depuis combien de temps ça a archivé, mais il y a quand même...
Moi j'ai déjà fait des recherches pour des revues qui dataient... d'un peu avant ma naissance, donc d'un
oui,
peu
donc
avant
c'est
les
tout
années
à fait
90.
Non, c'est récent, c'est récent.
Donc, mais il y a quand même, il y a vraiment énormément de choses. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est par exemple pour tous les jeunes enfants ou les étudiants qui ont besoin de faire une bibliographie à la fin, les informations bibliographiques de l'article sont disponibles et sont envoyées également.
Comme ça, oui, ça parce que les revues, ça coûte quand même fort cher. Hein.
Oui.
Enfin, les deux revues que j'ai ici, il y en a une qui coûte 10 euros et l'autre 8,50 euros.
Oui,
et généralement, c'est vrai qu'on s'intéresse à un article de la revue. Donc, c'est vraiment un service intéressant.
Enfin, quoique, moi, j'ai lu le courrier international Atlas du réchauffement climatique et je crois que j'ai lu quasiment tout. Parce que c'est vraiment très intéressant.
Mm-hmm.
Oui.
Oui, oui. Enfin, voilà.
En tout cas, voilà, ça permet... oui, ça permet de, ben, voilà, de, aussi peut-être d'aller... s'intéresser à des choses dont on n'aurait pas idée, et puis
à moindre
et
frais.
Puis c'est pas cher.
À pas de frais du tout.
Voilà.
Alors, je pense que Lou, tu vas nous parler de quelque chose qui est assez en résonance avec
oui.
ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Mm-hmm. En fait.
J'ai commencé par un extrait, d'ailleurs. Oh. Autrefois, le monde était différent. Autrefois, la mer regorgeait de créatures si miraculeuses qu'on les aurait crues sorties tout droit d'un rêve. Il y avait les animaux qui couraient dans les plaines, ceux qui glissaient dans les hautes herbes, ceux qui sautaient d'arbre en arbre, car les arbres étaient nombreux, eux aussi. Il y avait enfin des êtres ailés qui parcouraient majestueusement le ciel. Mais maintenant, même ces derniers vont disparaître. Mais non, disparaître n'est pas le bon terme. Ils sont massacrés, décimés par notre indifférence et notre inaction. Nos dirigeants ont décidé que la croissance était plus importante. Pour eux, tant qu'ils font leur profit, l'extinction de masse n'est qu'un moindre mal. Bon.
Mais vous avez décidé de nous déprimer,
non,
tous les deux.
Alors, je tiens à dire, ces mots sont extraits d'un roman que je viens de terminer et qui m'a vraiment bouleversée. Ça s'appelle « Migration » au pluriel. C'est écrit par une Australienne, Charlotte McConaghy, et c'est paru chez Lattès en 2020. La traduction, en tout cas, date de 2020. Alors, ce bouquin, c'est une ode, en fait, à un monde qui est en voie de disparition, mais c'est surtout un récit époustouflant sur la possibilité d'un espoir malgré tout. Donc, c'est pas un roman... Enfin, je ne le qualifierais pas d'un roman pessimiste. C'est effectivement un roman qui est situé dans un futur indéterminé, mais proche, où la nature est agonisante. Mais c'est surtout le roman d'une rédemption de l'héroïne du roman qui s'appelle Franny Stone et qui a une passion, ce sont les oiseaux migrateurs. Et donc, dans ce roman, le roman débute au Groenland parce que Franny se trouve là-bas, parce qu'elle a réussi à pucer des sternes, qui sont des oiseaux qui font la plus longue migration connue de l'histoire des oiseaux, qui vont d'un pôle, du pôle nord au pôle sud. Et donc elle les a pucés et elle doit trouver un bateau pour les suivre du Groenland à l'Antarctique. Alors plus ce serait presque un roman naturaliste s'il ne s'agissait que de cela. Mais en fait, il s'agit aussi de Franny, en fait, est une espèce de sterne à elle toute seule, parce qu'elle n'a jamais pu se fixer quelque part dans un endroit. Il faut toujours qu'elle bouge, alors qu'elle déborde d'amour pour son mari, Liam. Et plus l'histoire se déroule, et plus il devient évident que Franny cherche pas seulement les oiseaux, elle cherche la clé de sa propre histoire. Alors, ces lourds secrets la rattrapent un à un sur le bateau de pêche qui l'emmène vers l'Antarctique. C'est un roman qui est d'une certaine manière épique, mais qui est aussi très, très intime. Franny et l'équipage du Chagani, qui est le bateau de pêche qu'elle a réussi à trouver, nous emmènent vraiment dans un voyage inoubliable avec le capitaine qui s'appelle Ennis, peu importe, et un équipage très chaleureux. Alors, c'est un roman dystopique, évidemment, mais contrairement au roman dystopique que j'ai lu, en tout cas, celui-ci, donc Migration, n'est pas dans l'urgence, il n'est pas dans la panique. C'est un roman que je qualifierais de calme. C'est une sorte de conte triste, mais pas que, puisqu'il y a un espoir, puisqu'il y a moyen d'agir. La nature a une force telle qu'elle nous surprend. Et c'est aussi une histoire d'amour pour un homme et pour notre planète. Alors moi, personnellement, j'ai vraiment été happée. Je voulais savoir d'où venait cette Franny Stone, je voulais savoir où elle allait, et j'ai eu du mal à faire des interruptions. Et quand je suis arrivée au bout du roman, je me souviens, j'étais dans le divan chez moi, j'ai posé le livre, et je suis restée dans ma bulle pendant un long moment, complètement abasourdi par la fin, la fin du roman. Alors donc voilà, je pense que je vous ai dit, c'est un livre puissant, déchirant, qui est extrêmement émotionnel, parce que Franny elle sent les choses avec une telle intensité que moi j'ai fait plus sentir que lire. Ce qui est très étonnant pour moi, qui d'ordinaire, je reste quand même assez à l'écart. Mais là, j'ai pas pu résister à ce roman. Alors, je voudrais peut-être vous citer un autre extrait qui, en fait, n'est pas de Charlotte McConaghy, mais qui se trouve dans le roman et qui vient d'une autre écrivaine que vous connaissez sûrement, c'est Margaret Atwood, oui. Donc La Servante écarlate, évidemment. Et donc, elle cite cet extrait-là, je suppose, comme hommage à Margaret Atwood et parce qu'elle partage ses valeurs. Nous avons mangé les oiseaux. Nous les avons mangés. Nous voulions que nos gorges produisent un chant comme le leur. Alors nous les avons mangés. Nous voulions que notre peau se couvre de plumes comme les leurs. Nous voulions leurs ailes pour voler comme eux, monter en flèche vers les cimes et les cieux. Alors nous les avons mangés. Nous les avons frappés de nos lances et de nos gourdins. Nous avons pris leurs pieds dans de la colle, nous les avons capturés, plumés, puis jetés sur des braises. Et tout ça par amour, parce que nous voulions ne faire qu'un avec eux. C'est un très beau mot de Margaret Atwood, mais très dur. Oui. Alors, pour vous, je vous invite vraiment à lire ce bouquin qui est magnifique. Je vais citer un tout dernier extrait qui est très court, mais qui vous donnera peut-être un peu d'envie de le lire, parce que c'est une note un peu plus optimiste. J'ai trouvé dans ce roman, on se pose souvent la question du sens de la vie, et on cherche des sens très très lointains, des choses comme ça. Et puis là, c'est un extrait. Notre vie a un sens très simple. Il réside dans notre capacité à prendre soin des choses et des êtres et à rendre la vie plus douce à ceux qui nous entourent. C'est aussi simple que ça. Moi, ça me parle beaucoup. Alors voilà, terminer, j'ai choisi un extrait musical qui est un extrait de Sigur Rós. C'est un groupe islandais. C'est un extrait qui s'intitule Starlfur. Je ne suis pas sûre de bien prononcer. Mais alors, c'est une musique que je trouve particulièrement envoûtante, minérale. Et je vous invite à fermer les yeux et à imaginer les beaux paysages islandais.
Et bien voilà, donc c'était Sigur Rós. Alors les plus fidèles de nos auditeurs et auditrices auront probablement reconnu le générique de la première version de l'émission Loup avec vous.
Effectivement, ça te faisait beaucoup rire.
Oui, ça convenait parfaitement à une émission littéraire, très intello comme ça.
En fait, la petite histoire, c'est que je suis allée une fois en Écosse en voiture et j'ai un paysage magnifique en Écosse et je n'avais qu'un CD dans ma voiture, c'était celui-là. Donc j'ai écouté ça pendant 3 semaines et pour moi c'est lié au loch, au fjord, enfin c'est pas des fjords en Écosse mais j'ai imaginé. Voilà.
Voilà. Alors, es-tu prête, Isabelle ?
Prête à quoi donc ?
Voilà.
Tu veux que je te parle de l'agenda déjà ? Non, on va parler de l'agenda à la fin.
À la fin.
Moi, je suis toujours prête, hein, sinon, mais voilà.
Voilà. Donc, comme les scouts. Pas de remarques particulières à faire, non ?
Eh bien, moi, je dis que notes, oui, oui, parce que j'ai été conquise et convaincue par les mots de Lou, et donc ce livre, je vais le lire. Mais je vais me dépêcher pour qu'il puisse bénéficier à d'autres.
Voilà.
Ça se lit très vite. On a du mal à le déposer.
En général, ce sont les meilleurs bouquins.
Oui. Mm-hmm.
Moi, j'ai connu cette sensation-là à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, puisque nous savons tous que j'ai un âge canonique. Quand j'étais un peu plus jeune avec Harry Potter à l'école des sorciers.
Ça semble bien que je l'avais reconnu.
Oui.
Voilà, c'était un des premiers gros, entre guillemets, roman que m'offrait mon papa, qui m'a offert tous les bons bouquins que j'ai lus. Si tu m'écoutes, merci papa, tu es génial. C'est lui qui m'a donné le mordu de la lecture, on va dire. Alors, Harry Potter...
Et non, pas le moldu.
Non, pas le moldu. ce que nous sommes tous, entre parenthèses, nous sommes tous des moldus, mais heureusement...
Tu ne sais pas.
Nous avons les livres pour nous échapper un peu et profiter de la magie. Et du coup, cette magie de ne pas savoir reposer un livre qui m'est arrivé avec toute cette saga, hein, parce qu'il y a 7 tomes en tout, 8 si on compte la pièce de théâtre L'Enfant Maudit, mais qui se passe plus tard, eh bien, je me suis dit que... Enfin, j'ai remarqué, surtout j'ai constaté avec mes petits lecteurs que la magie n'avait pas encore émis son dernier souffle. Il y a encore des jeunes de 10 ans qui viennent lire Harry Potter, qui demandent Harry Potter dans les bibliothèques. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas vous lire un petit extrait, histoire pour ceux qui ne connaissent pas, de découvrir un tout petit peu le monde de la magie, et pour ceux qui connaissent déjà, de profiter pendant quelques minutes d'une lecture que vous connaissez déjà probablement par cœur. Mr. and Mrs. Dursley vivaient au 4 Privet Drive et avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Mr. Dursley dirigeait la Gunnings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Mrs. Dursley, quant à elle, était mince et blonde et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures du jardin. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. Mrs. Potter était la sœur de Mrs. Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Mrs. Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et son bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Alors je suis navrée pour Mr. et Mrs. Dursley, mais je pense que maintenant tout le monde est au courant pour les Potter.
Oui.
Je pense que oui.
Je pense. Donc voilà, avec 7 films, une pièce de théâtre inédite avec L'Enfant Maudit, 8 films plus 2 films des animaux fantastiques, plus le troisième qui, je vous l'annonce, va sortir le 13 avril 2022. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous l'annonce. On va enfin savoir ce qu'il se passe. Donc, la saga a quand même... elle a été bien, bien franchisée. Hein. Voilà, il y a par exemple des couettes, il y a des objets dérivés. On peut acheter sa baguette magique.
Et alors, oui, ils ont ouvert un magasin à
Liège.
Oui, il y en a plusieurs à Liège. Je pense bien qu'il y en a deux.
Ah oui ?
Oui, il me semble.
Oh, j'en connais
un. Il y en a qui fait exclusivement les produits Harry Potter.
Exclusivement Harry Potter. Oui, j'ai d'ailleurs une amie qui a offert la baguette magique à son petit-fils.
Ah ben oui.
Ah, et depuis, il est devenu sorcier.
Je comprends tout à fait.
Et depuis, tu n'as pas revu ton ami. Ah,
alors, s'il y a une chose que je peux vous inviter à tester dans les produits dérivés Harry Potter, parce que c'est quand même très rigolo, ce sont les petits bonbons, les dragées surprises de Bertie Crochu. Mmh. Alors ça ressemble très fort à ce qu'on appelle des jelly beans en anglais, donc c'est des petits haricots qui sont normalement parfumés aux fruits, éventuellement au Coca-Cola pour ceux qui sont un peu plus fous. Bertie Crochu vous propose crotte de nez, poubelle, vomi. Et croyez-moi, je suis tombée sur une vomi. Ah ben le goût y est, hein. il y est. Donc voilà, mais ça peut toujours être assez amusant si vous aimez par exemple faire des petites soirées en famille ou entre amis où vous vous piégez un petit peu, tout mélanger toutes les dragées dans un petit pot où on ne voit pas ce qu'on pioche et la jouer à la Fort Boyard, c'est très rigolo.
C'est ce qu'on appelle de la lecture en endorama.
Oh, c'est un très joli terme que je ne connaissais pas, j'aime beaucoup.
Là c'est plutôt en goûtorama, parce que c'est pas que l'odeur, c'est le goût. Mais pour revenir à Harry Potter, effectivement, J.K. Rowling, elle a réussi un coup de maître, puisqu'effectivement, ça fonctionne toujours avec les nouvelles générations. Souvent, ils y viennent par les films, et puis ils arrivent au livre. Mais quand ils arrivent au livre, ils sont autant accrochés que par les films, effectivement.
Parce qu'en fait, c'est un roman qui est très visuel. Hein. Vous l'aurez vu avec ne serait-ce que la description des Dursley. On voit ce bonhomme grand, massif, sans cou, avec un air un petit peu renfrogné. Et alors, on voit cette dame avec un profil très, très chevalin, son haut cou pour regarder par-dessus les clôtures. Vraiment, c'est vraiment très, 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 très visuel. Et ça, tout au long de toute la série, en fait.
Oui, hein. Et puis je pense qu'il y a aussi le phénomène d'identification, puisque chaque roman correspond à une année scolaire. Et donc, pour peu qu'on commence le livre, quand on a l'âge d'Harry Potter, on grandit en même temps que lui. Et ça, c'est formidable.
Oui.
Voilà.
Donc voilà, il n'est pas tout récent, hein, ne nous mentons pas. Harry Potter est quand même sorti il y a un certain temps. Mais il a tellement de succès que, par exemple, Folio Junior, ici, a ressorti une édition. Alors, de quand date-t-elle celle-ci ? Parce qu'en fait, ils en ressortent plusieurs. Celle-ci date de 2019. Voilà, ils ont... Donc ça, c'est la petite Folio, donc c'est la toute petite. Mais ils ont sorti, pour les grands, grands fans... Il y a moyen de se procurer les 7 tomes aux couleurs de votre maison à Poudlard. Donc rouge et doré pour les Griffons d'or, vert et argent pour les Serpentards, hein, parce que nous sommes très rusés. Le jaune et noir pour les Poufsouffles qui sont très loyaux, et le bleu et argent pour les Serres d'Aigle qui sont plutôt les intelligents et les penseurs en dehors de la boîte. Voilà.
Oui, la traduction est comique, c'est l'école de Poudlard.
Oui, et c'est Hogwarts en...
Verrue de porc.
C'est ça.
Et avec des petits poils dessus.
C'est ça, verrue de porc, et donc Poudlard.
Ouais.
Donc voilà, il y a quelques traductions, par exemple, un moldu, ça se dit a muggle en anglais, c'est un muggle. Et alors, il y avait les détraqueurs dans le tome 3, ceux qui aspirent tout le bonheur autour d'eux jusqu'à aspirer votre âme. Comme quoi le bonheur est très important, gardez-en. Les détraqueurs, ce sont les Dementors. Voilà. Je les ai lus en anglais. Je ne dirais pas que je suis incollable, mais je les ai lus en anglais.
Oui, en fait, tu as l'air d'être une bonne spécialiste de la question.
Oui, on dirait bien.
Ah oui.
Je plaide coupable.
On a aussi ici une spécialiste de Marie Fizan, hein, marquer la qualité de l'enchaînement.
Oh, wow. C'est beau.
Très bon. Voilà. Oui, oui. Effectivement, ben, disons que nous cheminons ensemble hein, depuis un petit bout de temps. Et pour rappel, la dernière fois, je vous avais laissé un peu quoi avec le chant des résistants par... c'est pas le chant des résistants, d'ailleurs, c'est le chant des partisans.
Le partisan,
version Catherine Ribeiro. Et donc, nous étions chez la tante Juliette, cette femme de caractère que nous décrit Marie Fizaine, qui a caché des résistants. Et puis, évidemment, les résistants qui n'ont pas tous échappé à la Gestapo, aux Allemands. Et nous voici avec Louis Fizaine et son camarade Louis Marron, qui subirent de lourdes tortures en usage chez les gestapistes. Pour le premier, sous toutes les formes, les sévices durèrent de 10 à 12 heures consécutives. Ensuite, il fut traîné dans sa cellule et abandonné durant 2 jours et une nuit sans boire ni manger. Ses voisins pouvaient l'entendre gémir. En général, les prisonniers communiquaient par la tuyauterie de chauffage qui n'avait plus sa fonction réelle. Les récidives se succédaient avec à chaque fois l'interrogatoire. L'un et l'autre devinrent méconnaissables. Après-guerre, les codétenus témoignèrent de leur courage et de leur ténacité. Ils furent condamnés à mort le 28 janvier 1944 à Arlon par le tribunal militaire allemand. La salle d'audience était comble. Chacun était venu par ses propres moyens. Le train d'abord. Les transports étaient difficiles, mais les têtes s'adonnaient sans cesse à la débrouille. Les deux Louis se retournèrent sur cette assemblée à laquelle ils ne s'attendaient pas. Tout d'abord, ils cherchèrent leur famille, les amis, puis tous les autres. Les signes d'amitié et de sympathie se levèrent à travers les larmes. La sentence rebondit entre les murs glacés. Puis un silence mortel fut rompu tout aussitôt par le boutoir des bottes nazies. La porte s'ouvrit. Les gens sortirent. Les épaules se frôlèrent de droite et de gauche dans un piétinement muet. Au dehors, la neige tombait et déjà encombrait la rue. Les condamnés se hissèrent dans les fourgons cellulaires sous les coups et la contrainte des mitraillettes. Et les gens, de regarder. Les condamnés attendront la mort comme la plus noble des délivrances. Transférés tous deux par train à la citadelle de Liège le 2 février, les deux Louis seront fusillés le 18 de ce même mois, à 7h30 du matin. Les détenus les ont entendus partir avec le peloton d'exécution, en chantant, comme ils l'ont écrit dans leur dernière lettre. Un troisième Florent-Villois, Pierre Fontaine, sera fusillé le 9 mars suivant, en compagnie de Marcel Janjou de Jamoigne, tous deux de la même équipe. Les recours en grâce furent évidemment rejetés malgré une filière secrète qui permettait d'arriver jusqu'au gouverneur allemand von Falkenhausen à Bruxelles. Elle avait été mise sur pied à Herbemont par Madame Perlinghi d'origine chinoise, fille de diplomate. Pour Florentville, la filière était connue du doyen Armand Capon, lui-même en relation avec Madame Perlinghi, qu'il faut le dire avait réussi à sauver bien des condamnés. En 1943, le chef suprême de la SS, Himmler, séjournait alors en Belgique. Il menait une répression de plus en plus forte, de plus en plus terrorisante. Louis Fizaine chantait dans sa cellule des chants de son enfance et des cantiques. Une note griffonnée par un de ses frères d'armes, si ce n'est l'aumônier militaire allemand, le qualifia de « héros des héros » dans le livre d'or de la résistance belge. Tous les quatre souffrirent, les lèvres closes, leur inexprimable calvaire et l'aumônier, allemand, qui les vit mourir au début de 1944, exprima plus tard son admiration pour les quatre garçons de Gaume qui avaient payé très cher leur glorieuse résistance. Leurs dernières lettres sont des hymnes de foi et d'amour pour la famille, le pays et Dieu. Le dernier geste fut le baiser à la croix et leur dernier cri « Vive la Belgique !» Le front sans bandeau, ils chantaient « J'irai la voir un jour ». Extrait de la résistance dans le sud Luxembourg. Idéal, qui est conçu et représenté dans l'esprit sans être ou pourrait être perçu par les sens, ensemble de valeurs esthétiques morales ou intellectuelles. Idéalisme, attitude d'esprit ou forme de caractère qui pousse à faire une large place à l'idéal, au sentiment. Résistance à la guerre, résistance d'un peuple inféodé sous la dictature égale, idéal pour libérer l'homme. Idéal, mot qui n'a plus cours. Belgique, petit pays bilingue uni dans la résistance face à un envahisseur, divisé contre lui-même en temps de paix. Jusque à quand ? On n'a jamais fini de faire son devoir. Extrait du journal intime de Louis Fizaine. un ravitaillement périlleux sur la route d'Isèle. Obéir me rend malheureuse et désobéir me rend coupable. Yvonne Guébara. Après le débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944, la libération se faisait proche, tout à fait imminente même. Le bel été se montrait parfaitement complice des armées libératrices. Nous étions exactement le 7 septembre et nous vivions dans une sorte de fièvre permanente. Loin, derrière les fenêtres et les portes fermées, on pouvait voir le repli des occupants qui n'avaient plus rien de victorieux, mais la grande prudence restait formelle. Les provisions semblaient suffisantes. Les légumes des jardins et de quelques coins de terre étaient une sauvegarde, le mieux étant d'éviter les déplacements jugés dangereux. Notre mère avait interdit les sorties à vélo. Ma grande sœur Ida ne voyait pas les choses de cette façon. Les boches sont foutues, disait-elle, on n'en voit plus aucun. C'est ainsi qu'elle me mit au défi de partir à Valençard, admonestée que je fus par des épithètes blessantes. Peut-être tout de même une poule mouillée, une nique-douille. Si je n'avais pas mon travail, moi j'irais. Alors, piqué au vif, j'empoignai les sacs et la bicyclette et je filai sans être vue. La route d'Isèle se trouvait entièrement déserte. Sur les champs, on ne voyait âme qui vive. Le bois de la haie que je longeais était tout aussi empreint d'une immense tranquillité. Au fil des coups de pédale, le silence ouvrit en moi un étonnement de plus en plus saisissant. Je me sentais soudain devenu un insecte rare perdu dans l'univers, bien qu'il me semblait à la fois régner sur un monde en abandon. Une inquiétude sournoise me saisit, assimilable à la fomentation d'une indigestion tout au fond de l'estomac. Elle devenait grandissante, mais j'allais sans songer à faire demi-tour. Et pourquoi donc ? Une pensée subjective me portait, incapable à définir alors que l'angoisse devenait omniprésente. La poule mouillée ferait son chemin. Je guettais en vain, au moindre tournant, un signe de vie humaine. Rien que des vaches. Et j'aurais pu les compter sur les doigts d'une main, les cultivateurs ayant préféré les rentrer. Au bas de la côte d'Isèle, 4 kilomètres derrière moi, arc-bouté de tout mon poids sur le guidon, je montais sans trop de mal. Ici comme ailleurs, le vide obsédant semblait habiter le village. Cette fois, j'étais bien seule à circuler. Au passage, je jetai un coup d'œil sur la maison de tante Juliette qui avait fermé sa quincaillerie. Mon assurance, ça me nuisait terriblement. 500 mètres plus loin, je rejoignais la nationale d'Arlon. Enfin, j'amorçais la grande descente du Faël vers Jamoigne. Les ailes me revenaient et je me grondais intérieurement d'avoir tant tardé à me mettre en route. Noble constatation que j'allais regretter à l'instant même. J'avais à peine parcouru 50 mètres, juste dans le premier tournant de cette descente d'environ 1500 mètres, que je trouvais là des accotements très occupés. Surprise au plus haut point, je serrai tout d'abord les freins en considérant cet interminable ruban de route où siégeait tout au long une colonne allemande. Une peur terrible m'envahit, alors que tout à coup il me semblait impossible de rebrousser chemin, certaine qu'il m'avait déjà aperçue. D'un coup de jarret, je repartis en activant le sport. Je longeais maintenant un assemblage hétéroclite fait de camionnettes militaires et civiles, des voitures pour la plupart des Renault et des Citroën. Toutes ces locomotions étaient à l'arrêt. Plusieurs avaient le capot levé, avec des hommes penchés par-dessus. Un camion lâchait sur le haut de sa cabine la fumée noire et hoquetante d'un gazogène. Je continuai, tandis que mes yeux cherchaient le bout de la route, surtout le bout de cette horrible rencontre. Hélas, l'un et l'autre allaient de pair vers l'infini. Les jambes déliées à l'excès, je ne pensais plus qu'à dévorer l'espace. Ainsi, mètre par mètre, je dépassais des soldats, des Allemands. Jamais je ne verrais la fin du cauchemar. Qu'étais-je donc devenu ? Des dormeurs occupaient les véhicules, certains étaient étendus à même le sol herbeux. Pas un ne leva la tête, la descente du Faël étant alors bordée de pommiers sauvages. Il mangeait ses petites pommes belles et rouges, mais aigres, à en mourir, je le savais. Je filais toujours, je filais si bien qu'à la fin, Jamoigne apparut d'un seul coup. Cette fois, il n'y avait plus rien, tout était vide et les maisons parfaitement barricadées. Enfin, à droite, je bifurquai vers Valençard. Desserré de la peur, mes jambes devenaient affreusement molles. Mais je repris courage en rivant mon regard sur la maison de tante Louise. Je la voyais maintenant à courte distance. La porte de l'écurie s'ouvrit juste à point et je vis l'oncle Charles poussant une brouette vers la sortie. Enfin, sous mes pieds, je sentis la terre ferme, tandis qu'une voix tonitruante refoula en moi l'incroyable plaisir de retrouver la vie. Je relevai la tête tout en stoppant mon ultime démarche. « Qu'est-ce que tu viens faire ici aujourd'hui ? On n'a pas idée par les dangers qui courent. Tu ne vas tout de même pas me dire que c'est ta mère qui t'envoie. Il n'y a pas eu assez de malheur chez toi. C'est vraiment de la folie. Nous allons laisser là la petite Marie qui est arrivée à temps, sans trop de mal. Et puisqu'elle a vu des vaches et des pommiers, eh bien moi j'avais envie de vous amener au lieu du débarquement, Made in Normandie.
Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Quand on m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai raconté, mais ton cœur, j'ai toujours gardé. Les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, Made in Normandie. Une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux, Made in Normandie. Les œufs, Made in Normandie, les peaux, Made in Normandie. Un petit village plein d'amis, et puis les filles au jour.
Je suis américaine et je suis née à Philadelphie. En 1944, tu es partie loin de ma vie. J'ai mis dans ton blouson un peu de père de notre pays. J'ai tremblé en écoutant la radio toutes les nuits. La guerre, je sais. Je l'ai raconté, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé
les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, Made in Normandie, une mare avec des canards, les pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux, Made in Normandie, les œufs, Made in Normandie, les peaux, Made in Normandie.
Vous aurez remarqué que la libération est déjà passée, hein, que je vous ai mis une musique un peu plus légère que l'extrait que j'ai lu précédemment, mais je me suis dit, je ne vais pas laisser les auditeurs et les auditrices avec un titre, avec un texte aussi dur, aussi lourd.
Si vous voulez vous pendre, vous pouvez acheter des cordes.
Non, Jean-Marie.
À la maison de la corde de Florentville.
Non, il y a tellement de choses à faire encore, de livres à lire, de musique à écouter, de conférences à aller voir, auxquelles participer.
Oui, à propos de conférences, tiens.
Mais oui, voilà, par exemple, à la bibliothèque de Florentville, nous organisons une conférence à l'initiative d'un de nos lecteurs, figurez-vous, qui est passionné collectionneur et guide sur le champ de bataille de Waterloo. Il est donc passionné par Napoléon et il va faire une conférence le vendredi 12 novembre à 18h sur Napoléon et les femmes. Donc, femmes, mères, sœurs. Et donc, cela risque d'être intéressant. C'est gratuit, mais c'est sur réservation. Et donc, comme toujours, vous pouvez vous adresser directement à la bibliothèque par mail, par Messenger, par téléphone au 061 320 340 ou venez nous rendre visite directement à la bibliothèque. Et nous pourrons aussi vous parler d'un cycle.
Là, Platon, c'est... Hein, c'est ça.
Ah mais alors c'est non, Jean-Marie, c'est pas Platon, c'est Socrate.
Ah oui, pardon.
Socrate. Et ça, alors c'est pas organisé par la bibliothèque. Ce n'est pas à la bibliothèque d'ailleurs. C'est, c'est où précisément ? Je pense que c'est à la Halle de Han, à Tintigny. Et c'est tous les jeudis soirs de 19h30. Non, je dis des bêtises. De 18h30 à 21h30. C'est tous les jeudis d'octobre à juin. Et en fait, c'est vraiment pour discuter, réfléchir sur différents thèmes. On appelle ça une école populaire. Donc, c'est pas réservé aux intellos et à ceux qui veulent se gratter le crâne, mais c'est vraiment pour échanger, se rencontrer. Et
sur donc, des sujets philosophiques, j'imagine.
Voilà, tout à fait. Et donc là, le numéro pour se renseigner, c'est au 063 21 87 33.
Il y avait une histoire comme ça d'un taximan, enfin, un philosophe connu dont j'ai oublié le nom, qui est pris en taxi par un taximan. On lui discute parce qu'il y a des embouteillages. Et le taximan lui dit « Ah, qu'est-ce que vous faites comme métier ?» Il dit « Ah, moi, je suis philosophe. » Le taximan répond « La philosophie, ça ne sert à rien. » Le gars lui dit « Vous voyez, vous faites de la philosophie déjà. » C'était pas mal comme principe. Peut-être que la prochaine fois, tu pourrais nous parler de...
Oui, je suis en train de lire un bouquin qui est très drôle, qui s'appelle « Le porc qui veut être mangé » et 90 autres expériences de pensée. Mm-hmm. C'est donc des petits extraits, 3-4 pages. Et alors, on a un dilemme ou une question philosophique qui est posée. Et on est amené à réfléchir suite à ça. C'est vraiment très intéressant. Alors, je pense, l'auteur, c'est Julian Banini. Enfin, je ne l'ai pas sous les yeux, je n'ai pas retenu le nom.
Mais... Il sera pour la prochaine fois.
Oui, il sera pour la prochaine fois, c'est très drôle.
Ça pourrait servir justement à ce cycle Socrate à Tintigny, parce que les questionnements, c'est pourquoi tant de place au travail-emploi, la technologie dans nos vies, l'origine, l'évolution des expériences démocratiques. Quel changement de fond s'installe au travers de nombreux mouvements, actions contestataires. Donc il y a vraiment, voilà, il y a de quoi réfléchir, de quoi discuter, effectivement.
Et c'est bien d'avoir un débat, parce que notre société est de plus en plus polarisée, donc pouvoir débattre, c'est très important. Ne pas nécessairement être d'accord, mais...
Discuter.
Ouais.
Bien sûr.
Très important.
Et se rencontrer.
Oui.
Ça fait toujours du bien.
Oui, l'évolution vient de la variabilité. Hein. L'évolution biologique, comme ça, et les pensées, c'est pareil. Si on est tous à penser la même chose, on rentre dans la réunion, on n'en sort pas à midi poil plus intelligent qu'en
mais
y rentrant.
Non, ça n'a pas d'intérêt.
Quand quelqu'un défend un point de vue différent, on doit déjà argumenter sur le sien, et puis on arrive à l'écoute d'eux.
Mais oui.
Eh bien voilà, les meilleures choses ont une fin. Hein. Hélas, nous allons, chers auditeurs, chères auditrices, vous quitter. Mais ce n'est que partie remise, nous serons de nouveau là bientôt. Alors voilà, je vous dis au revoir.
Au revoir à tous et à toutes.
Mais oui, au revoir.
Au revoir, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit.
Voilà, Nathan vous fait un petit signe aussi pour dire au revoir.
En qu'il tire,